Bonjour à toutes et à tous. Je tiens aussi à répéter ma reconnaissance envers Tatiana et Clément pour le temps qu'ils ont mené et qui nous a conduits à tourner nos regards vers le Seigneur. Vraiment merci. Nous sommes au quatrième dimanche de l'Avent et j'attends avec beaucoup d'enthousiasme la fête de Noël. Alors ce n'est pas tant à cause des cadeaux ou du repas de famille, mais c'est à cause de ce que cela signifie pour nous. Dieu a vécu parmi les hommes en la personne de Jésus. Sa naissance est la meilleure nouvelle qui soit pour tous ceux qui attendaient un sauveur. Et comme nous l'avons chanté, il est venu jusqu'à nous. Alors comment ne pas avoir une certaine joie, une certaine excitation à l'approche de Noël et de se souvenir de ce que cela signifie pour nous. J'aimerais vous poser cette question. Qui a déjà lu ou vu l'adaptation de l'histoire du Voyage du Pèlerin? Juste comme ça. Qui connaît à peu près l'histoire, même sans l'avoir peut-être vue ou lue? J'aime beaucoup cette histoire. Et pour résumer brièvement, ce roman écrit par John Bunyan à la fin du XVIIe siècle, nous raconte l'itinéraire, un itinéraire pas si simple, d'un personnage qui s'appelle Chrétien, le personnage s'appelle Chrétien, qui quitte la cité de la destruction pour se diriger vers la cité céleste. Et bien entendu, l'histoire se termine bien, et Chrétien arrive à la magnifique cité céleste. Et d'une manière un peu différente, nous arrivons cet après-midi aux dernières pages de la Bible, là où la cité céleste nous est décrite. Et un jour, selon l'espérance que Dieu a placée dans notre cœur, nous passerons du livre à la réalité. Et nous clôturons donc aujourd'hui notre parcours en biblique entamé depuis le mois de janvier de cette année. Nous avions commencé par la Genèse, et nous finissons aujourd'hui avec l'Apocalypse. Et cet après-midi, nous ouvrons une porte sur ce qui se passe après le retour de Jésus. Nous ouvrons une fenêtre sur ce qu'est la vie éternelle aux côtés de Dieu. Mais d'abord, quelques mots sur le contexte. L'apôtre Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, est exilé sur l'île de Patmos. Il y a une flèche qui indique à peu près cette île, où elle se situe, sur l'île de Patmos, à cause de son témoignage chrétien, parce qu'il a témoigné de Christ. Nous sommes dans les années 90-95 après Jésus-Christ. Et il écrit l'Apocalypse à cette église d'Asie mineure. Et les chrétiens de ces églises semblent connaître des persécutions à cette époque. Et il doit vivre dans une société qui rend un culte à l'empereur, qui rend un culte à d'autres divinités. Et en plus de la pression sociale qu'ils peuvent connaître, eh bien des enseignants entraînent certains jusqu'à l'idolâtrie et la débauche sexuelle. Alors dans un tel contexte, si on essaie d'imaginer un petit peu, dans un tel contexte, quel message le Seigneur adresse-t-il aux églises ? Bien sûr, de revenir à lui, de changer d'attitude, de persévérer dans la foi, de pratiquer les œuvres bonnes. Ce n'est pas le moment de retourner en arrière alors que l'heure du jugement approche, alors que le retour du Seigneur est proche. Et ce qui est vrai pour l'époque l'est d'autant plus pour nous qui sommes encore plus proches de son retour. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans ce survol des deux derniers chapitres de l'Apocalypse ? Vous êtes prêts ? On y va ? Commençons par deux visions extraordinaires. Au chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean rapporte deux visions qu'il a reçues de la nouvelle création. Et quel privilège pour ce disciple de Jésus de voir ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Lui, il a vu. La vision au chapitre 21, versets 1 à 8, conclut un cycle qui comporte sept visions. Cette vision qui décrive la victoire définitive de Christ sur les forces du mal. Lorsque nous lisons des chapitres 19 à 21, nous voyons cette victoire triomphante, absolue, totale de Christ sur les forces du mal. Et dans la vision précédente à la nôtre, Jean a un aperçu du jugement dernier. Et ce jugement dernier se termine sur le sort de ceux qui seront éternellement séparés de Dieu. Alors qu'en est-il de ceux qui seront éternellement avec Dieu? Bien, je vous propose que nous puissions lire ensemble cette vision. Verset 1. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. » Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, a le pouvoir de transformer complètement le monde dans lequel nous vivons actuellement. Je pense que vous n'aimez pas particulièrement le monde dans lequel nous vivons actuellement. Eh bien, Dieu a le pouvoir de transformer complètement ce monde. Et pour que Dieu vienne habiter avec ses peuples, il ne faut rien de moins qu'un ciel nouveau et une terre nouvelle. Une terre nouvelle débarrassée de toute impureté, de tout mal. Et plusieurs commentateurs pensent que la disparition de la mer ici n'est pas à comprendre au sens littéral. Et si vous aimez la mer, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas à comprendre au sens littéral ici. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, la mer représente plutôt le monde hostile à Dieu. C'est notamment de la mer que surgit la bête qui se fait adorer par les hommes, qui insulte Dieu, qui fait la guerre au peuple de Dieu. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 13. Donc la mer représente le monde hostile à Dieu. Et ailleurs, au chapitre 17, nous voyons aussi cette description d'une femme désignée comme la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Et un ange qui dit à ce sujet, au sujet de ces eaux, « Les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. » Et dans le contexte, il faut comprendre que ces peuples sont sous l'influence de la prostituée, appelée aussi la Grande Babylone, qui séduit les nations et les entraîne dans le péché. Donc la mer a une connotation négative dans l'Apocalypse. Et donc si elle disparaît, c'est une bonne nouvelle. Et au chapitre 21, puisque Christ a déjà vaincu, enfin en tout cas vaincra définitivement les forces qui lui sont hostiles, eh bien la mer n'existe plus. Ce qui est hostile à Dieu n'existe plus. Et Télia confirme. Sur cette nouvelle terre, le mal sous toutes ses formes n'aura nulle part sa place. Et dans cette vision, Jean voit aussi une ville descendre du ciel. Par opposition à la grande Babylone, présentée sous les traits d'une prostituée, eh bien la nouvelle Babylone est présentée comme une mariée, parée pour son époux. Voyez le contraste, la grande Babylone comme une prostituée et la nouvelle Babylone et la nouvelle Jérusalem comme une mariée parée pour son époux. Et j'aurai l'occasion de revenir dans un instant sur la description de cette ville. Voici donc le monde que Dieu renouvelle. Un monde où il nous console de toutes les peines que nous aurons connues dans cette vie. Il essuiera toutes larmes. Un monde où la mort n'aura plus de pouvoir. Plus de deuil. Plus de souffrance. Plus de handicap. Plus de crise sanitaire. Tout cela sera terminé. Et combien nous aspirons à un tel monde, n'est-ce pas ? Nous qui sommes tellement habitués à voir le mal, la souffrance et la mort autour de nous, nous avons peine à imaginer un monde où tout cela n'existera plus. Pourtant, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Même si nous avons du mal à imaginer, nous fondons notre foi sur le fait que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Cette réalité future est celle que Dieu a réservée pour celles et ceux qui auront persévéré dans leur foi jusqu'au bout. C'est l'héritage confié aux enfants de Dieu, à celles et ceux qui auront mis leur confiance en Jésus pour leur salut. Cette terre nouvelle, ce ciel nouveau, c'est l'héritage qui est confié aux enfants de Dieu. Et quant aux autres, à celles et ceux qui auront pratiqué le mal jusqu'au bout, leur place sera loin de Dieu, puisque c'est ce qu'ils auront aussi voulu dans cette vie. C'est pourquoi il importe de répondre à l'invitation de Dieu, à celui qui a soif, si nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Gratuitement, sans qu'on puisse payer quoi que ce soit, parce que c'est la grâce de Dieu. Je donnerai à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. La vie, mes amis, se trouve du côté de Dieu. Et l'eau ici n'a pas du tout une connotation négative comme la mer tout à l'heure. Et dans la Bible, l'eau qui est employée comme une image renvoie souvent à l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit qui nous a transformés, qui nous fait goûter à cette vie nouvelle dès maintenant. Cette eau que nous buvons. C'est cet Esprit qui continue de nous transformer pour nous préparer à cette vie sur la nouvelle terre. Parce qu'il faudra être prêt pour ça. Mais l'Esprit œuvre pour nous transformer. Nous avons besoin de cette eau, encore et encore. Dans la suite du texte, à partir du verset 9, c'est un ange qui montre à Jean la nouvelle Jérusalem, celle qui est désignée comme l'épouse de l'agneau. Alors si nous ne sommes pas habitués à ce langage, cela peut nous surprendre, une ville qui est l'épouse d'un agneau. C'est un langage un peu surprenant, non ? C'est une des raisons pour lesquelles nous ne commençons pas la lecture de la Bible par l'Apocalypse. Nous avons besoin du reste de la Bible pour comprendre des expressions telles que celle-ci. L'épouse de l'agneau. Et je vais juste définir ce que nous comprenons par là. Dans l'Ancien Testament, l'image du mariage était utilisée pour définir la relation entre Dieu et son peuple. Une relation qui était bâtie sur une alliance, précisément. Ainsi, ce que nous lisons notamment en Ésaïe 62, le prophète qui dit « Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. » On retrouve cette image. Ou encore au verset 5, « Comme la mariée fait la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu. » Donc, nous avons cette image du mariage pour définir la relation entre Dieu et son peuple. Et de la même manière, dans le Nouveau Testament, Paul, l'apôtre Paul, décrira avec la même image la relation entre Christ et l'Église. Nous lisons en Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Quant à vous, Marie, instruction donc adressée au mari, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » L'Église, le peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance, est désignée comme l'épouse de Christ, qui a effectivement donné sa vie pour elle, tel un agneau sans défaut, sacrifié à cause de ses péchés. Voilà, nous retrouvons l'image de l'agneau concernant Christ. Jésus est l'agneau. Et c'est ainsi, entre autres, qu'il est désigné dans l'Apocalypse. Il est l'agneau. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et voici que l'ange va montrer cette épouse de l'agneau, maintenant qu'on saisit mieux cette expression. L'ange va montrer cette épouse de l'agneau qui, dans notre texte, est la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem, si on veut un petit peu compliquer les choses, il faut comprendre qu'elle représente en même temps le peuple de Dieu, puisqu'on a dit que l'Église est l'épouse de Christ, et en même temps le lieu où Dieu est réuni avec son peuple. Et lorsque nous lisons cette description sur la Nouvelle Jérusalem, il faut entendre les deux. Le peuple de Dieu sera aussi beau que la ville où demeure Dieu. Et nous retiendrons pour cet après-midi trois aspects qui caractérise la Nouvelle Jérusalem. D'abord, parlons de la beauté. Une petite anecdote concernant la beauté. Vous voyez cette scène? Je ne sais pas si vous voyez tout de suite à quoi ça fait référence. Je suis en haut de l'escalier et de dos, mais je n'ai pas encore vu ma femme dans sa tenue de mariée. Et voici la photo suivante qui va montrer ma réaction. Bon, je suis plutôt content. Puisque nous parlons d'une mariée, nous nous attendons à voir quelque chose de magnifique. Enfin, moi, je m'attendais à ça déjà. Mais lorsque nous lisons dans le texte de l'Apocalypse, lorsqu'on parle d'une mariée, d'une épouse, nous nous attendons à quelque chose de magnifique. Et je vous propose de lire avec moi ce qui fait la beauté de cette mariée. Il me transporta, donc il, l'ange, me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille percée de 12 portes gardées par 12 anges. Et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je n'ai pas beaucoup de mots à ajouter à cette description. Je vous laisse apprécier cette description avec tous ses symboles. Cette ville ne ressemble à aucune que nous connaissons ici-bas, parce qu'aucune n'est descendue du ciel. Aucune ne rayonne de la gloire de Dieu. Aucune ville sur cette terre n'est décrite de cette façon-là. Elle est bien unique, la Nouvelle Jérusalem. L'or, les pierres précieuses de différentes couleurs et les perles participent à sa splendeur. Ça, c'était la première caractéristique, la beauté de cette ville. Voyons la nouveauté. Alors, nous avons déjà évoqué cet aspect pour parler de la nouvelle création, sur laquelle il n'y aura plus de mal, ni de souffrance, ni de menace venant de l'extérieur. Et comme la mer, eh bien, la nuit ne sera plus. La nuit, comme image pour évoquer ce qui appartient aux ténèbres. C'est pourquoi les portes de cette ville resteront ouvertes. Verset 25. Il n'y aura plus rien à craindre. Et autre nouveauté, dans cette ville de Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Car son temple, nous lisons au verset 22, son temple c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'aura pas besoin de soleil pour l'éclairer, car la gloire de Dieu suffit. La lumière qui vient de Dieu suffit pour éclairer les gens issus de tous les peuples. Et cela veut dire aussi que notre compréhension, notre connaissance de Dieu et de sa volonté seront débarrassées de toute erreur. Nous pourrons connaître Dieu sans erreur. Il n'y aura plus de débat théologique entre nous, parce que nous serons tous d'accord. Et nous comprendrons tous la même chose à propos de Dieu. Nous connaîtrons Dieu tel qu'il est, et nous ne finirons jamais de le connaître, lui qui est infiniment grand. Nous ne finirons jamais de le connaître encore et encore. Mais au moins, nous le connaîtrons sans erreur. Notons aussi que toutes les réalisations humaines, tout ce qui fait la gloire des peuples serviront dans la ville nouvelle. Aujourd'hui, nous utilisons une certaine technologie. Et parce que nous sommes pécheurs, nous n'en faisons pas toujours un bon usage. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, cette technologie ne sera plus une source de distraction qui nous éloigne de Dieu. Au contraire, elle pourrait, je préfère parler au conditionnel parce qu'on ne sait pas réellement de quoi il en est, mais elle pourrait entièrement servir à ce nouveau cadre de vie, sans causer aucun mal. Si un jour cette technologie existe encore, elle pourra être mise au service de la gloire de Dieu, entièrement. Et autre nouveauté encore, dans cette ville, hommes et femmes auront accès à l'arbre de vie. Ce qui n'était pas arrivé depuis la chute. Hommes et femmes auront accès à l'arbre de vie, ce qui n'était pas arrivé depuis la chute, depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et ça fait déjà un moment. L'humanité sauvée par Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, retrouve ce nouveau jardin d'Éden. Et bien sûr, dans ce paradis, il n'y aura plus aucune malédiction. Dieu mettra fin à ce moment-là aux conséquences du péché. Et là encore, on a du mal à imaginer, mais Dieu mettra fin aux conséquences du péché. Là, dans ce paradis. C'est l'assurance aussi, en disant qu'il n'y aura plus aucune malédiction, c'est l'assurance que l'histoire ne recommencera pas, qu'il n'y aura pas de nouvelle chute. Et c'est dire l'efficacité de la mort de Christ pour nos péchés. Cela a suffi une fois pour toutes. Il n'y aura jamais de deuxième croix. Jamais. Nous ne connaîtrons pas un recommencement de l'histoire. Jamais. Il n'y aura plus de malédiction. C'est la différence avec Adam et Ève. Et la troisième caractéristique, c'est la proximité. La nouvelle Jérusalem est le lieu où Dieu est réuni avec son peuple. C'est comme nous le lisons au verset 3 du chapitre 21, c'est la tente de Dieu avec les hommes, là où Dieu habite avec celles et ceux qui lui appartiennent. Et si nous avons placé notre confiance en lui, nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui vivront continuellement dans la présence de Dieu. Il faut ajouter encore que la nouvelle Jérusalem a la forme d'un carré, et plus précisément d'un cube, puisque sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont de même dimension. Et plusieurs ont vu dans ces indications un lien avec la forme du lieu très saint, dans le temple. Ce lieu très saint qui avait comme dimension 10 mètres de long et 10 mètres de large, un carré. À l'époque, c'était dans cette partie du temple que Dieu manifestait sa présence. Et dans la Nouvelle Jérusalem, c'est l'ensemble de la ville qui est ce carré où Dieu demeure au milieu de son peuple. Il nous sera possible de nous tenir là où Dieu se trouve, sans mourir, parce que l'agneau est déjà mort à notre place. Il nous sera possible de nous tenir là où Dieu se trouve, sans mourir. Et dans cette vision, nous arrivons à l'aboutissement du plan de Dieu. Dieu a réussi. Dieu a réussi à vaincre le péché qui nous séparait de lui, pour qu'un jour nous soyons avec lui et lui avec nous. Et je lis encore les derniers versets de cette vision. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront éternellement. Selon vous, comment les destinataires de Jean ont-ils réagi à l'écoute de ces visions? Pourquoi Dieu a voulu que nous ayons cet aperçu de l'éternité? Tout ce à quoi nous aspirons dans cette vie, tout ce que nous désirons intensément se trouve là, dans le monde que Dieu renouvellera. Ce sont des paroles vraies et entièrement dignes de confiance. Et je vous propose d'en venir à la conclusion du livre de l'Apocalypse. Et c'est aussi sur ces mots que la Bible se termine. Et pour cela, je vous propose de lire avec moi, de manière alternée, les derniers versets de ce chapitre 22. Je lirai les versets pairs, mais je vous laisserai lire les versets impairs. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. Et il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare, « Oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. » Ce qui retient notre attention à la première lecture, c'est cette déclaration de Jésus, répétée trois fois, « Je viens bientôt ». L'insistance est forte. Le Seigneur nous dit encore cet après-midi trois fois qu'il vient bientôt. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une sœur sur le sens de l'expression en grec. Parce que le mot qui est traduit par « bientôt » dans nos versions françaises signifie aussi dans d'autres contextes « rapidement », « promptement ». Alors pourquoi le traduire par « bientôt » ben, je ne sais pas. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de remise en cause de cette traduction. Je ne sais pas pourquoi nous avons traduit par « bientôt ». Mais une chose est sûre, c'est que nous devons nous y préparer. Ça fait plusieurs dimanches que nous en parlons. Et bien entendu, il ne s'agit pas de nous poster là, dehors, le nez levé et d'attendre que Jésus revienne. Mais regardons plutôt ce que Jean écrit. Lui qui a eu le privilège d'entendre et de voir tout ce qui nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Au verset 7, Jésus déclare « Heureuse toute personne qui garde, qui obéit aux paroles de ce livre ». Et nous parlons de l'Apocalypse. D'ailleurs, au verset 10, Jean a la mission de dévoiler ses paroles et c'est ce qu'il a fait en écrivant ce livre. L'Apocalypse n'est pas un code secret à déchiffrer. Comme le reste de la Bible, c'est un livre auquel nous devons obéir parce qu'il est parole de Dieu. Et ce que nous devons retenir, c'est cette exhortation que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste et que celui qui est saint continue à se purifier. Alors, ce verset 11 décrit aussi l'autre réalité, que certains, malheureusement, resteront éloignés de Dieu, le cœur toujours plus endurci. Or, la conséquence, nous l'avons déjà évoquée, c'est qu'ils resteront en dehors de la ville. Voilà un sérieux avertissement. Mais pour celles et ceux qui pratiquent la justice durant leur vie sur terre, pour celles et ceux qui lavent leurs vêtements, comme nous le lisons au verset 14, c'est-à-dire en évitant toute souillure, en ne faisant pas de compromis avec le péché, eh bien Dieu leur accorde l'accès à l'arbre de vie. Dieu leur accorde l'accès à la Nouvelle Jérusalem. Oui, le vainqueur dans le livre de l'Apocalypse, c'est celui ou celle qui persévère jusqu'au bout, qui reste attaché, fidèle à Dieu. Malgré les persécutions, malgré les séductions de ce monde, malgré les obstacles. Bien sûr, nous devons le dire, bien sûr, c'est Dieu qui en donne la capacité. C'est Dieu qui nous donne de pouvoir persévérer jusqu'au bout. Et vous voyez que jusqu'aux dernières lignes de la Bible, Dieu nous demande de lui obéir, de vivre selon ses exigences, selon sa justice et non pas la nôtre. Jusqu'aux dernières lignes de la Bible, Dieu nous demande de lui obéir. Dieu nous demande de prendre au sérieux les paroles de ce dernier livre de la Bible. Et les versets 18 et 19 nous mettent en garde contre toute manipulation et non-respect des paroles de ce livre. Il n'y a rien à ajouter et rien à enlever dans ce livre. Nous devons recevoir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, ni plus ni moins. Et il me semble que nous devons tirer leçon de cette partie qui conclut l'Apocalypse. Le Seigneur vient bientôt. Persévérons dans l'obéissance à Dieu. Si nous avons placé notre confiance en Christ, continuons en cette fin d'année 2021 de vivre en évitant tout compromis, en rejetant tout ce qui a trait aux idoles modernes, aux pratiques occultes, à l'immoralité sexuelle, aux mensonges. Au contraire, adorons Dieu et lui seul. Pratiquons les œuvres bonnes. Recherchons la pureté dans notre rapport à la sexualité et attachons-nous à la vérité. Si certains d'entre nous luttent avec les pensées mauvaises, avec la pornographie, avec la masturbation, avec d'autres pratiques de ce genre, souvenons-nous que le Seigneur vient bientôt. Et je sais que dans ce domaine-là, le combat est tenace. Mais souvenons-nous que le Seigneur vient bientôt. Aujourd'hui encore, tu peux décider, tu peux faire ce choix devant Dieu, d'abandonner ce qui n'a pas sa place dans la vie chrétienne. Nous pouvons en parler ensemble et prier pour ça. Si ta tendance va au mensonge dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, souviens-toi qu'il n'y a pas de place pour les menteurs dans la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons en parler ensemble et prier pour ça. Que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Et nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour changer. Vraiment. Frères et sœurs, ne laissons pas les séductions de ce monde envahir notre cœur. Nous l'avons dit, tout ce que nous pouvons désirer ici-bas se trouvera sur la nouvelle terre, débarrassé de tout mal et rempli de la présence de Dieu. Le livre de l'Apocalypse comporte bien d'autres exhortations qu'il nous faut lire et connaître. C'est un livre qui s'adresse aux églises, à toutes les églises. Et peut-être que prochainement, nous en ferons l'étude ici, à Saint-Maur. Mais en attendant, n'ayez pas peur de lire ce livre. N'ayez pas peur de lire ce livre. Il a été écrit pour encourager les chrétiens de l'époque de Jean et pour nous encourager aujourd'hui, en 2021. J'espère que vous avez survécu à ce survol. Je suis conscient que nous avons évoqué beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est sûr que je n'ai pas eu le temps de parler de tout. Depuis la première venue de Jésus, nous sommes entrés dans la dernière période de l'histoire. Le Seigneur vient bientôt, il arrive. C'est comme s'il nous disait « j'arrive ». Et dans l'attente de son retour, nous sommes appelés encore cet après-midi à aligner notre vie, notre conduite, nos pensées sur les commandements et les paroles de Dieu. Nous sommes appelés à persévérer dans l'obéissance à Dieu, car c'est à lui seul que nous avons confié notre vie. Si nous avons vraiment mis notre foi en Christ, si nous avons effectivement reçu son Saint-Esprit, il ne peut en être autrement. Et si aucun changement ne s'opère en nous, nous pouvons sérieusement nous poser des questions. Mais alors, l'invitation que nous avons dans notre texte est toujours valable. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Venons tous à Jésus pour qu'il nous transmette gratuitement la vie par son esprit. Venons tous à lui pour qu'il nous prépare à entrer dans l'éternité avec lui. Venons à lui et disons « Viens, Seigneur Jésus ». Parce que nous soupirons après ça. Viens, Seigneur Jésus. Est-ce que l'Église de Saint-Maur peut le dire ? Viens, Seigneur Jésus. Je vous laisse. Prions ensemble. Quel magnifique texte, Seigneur, tu nous laisses dans ces dernières pages de la Bible, en nous montrant toute la splendeur, la beauté du monde qui nous attend. Et combien nous nous sentons tout petits lorsque nous pensons au fait que nous ne méritons aucunement de pouvoir vivre sur cette nouvelle terre. Mais grâce à Christ, grâce à son œuvre, à sa mort, à sa résurrection, eh bien oui, tu nous donnes le droit d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais en attendant, Seigneur, nous te supplions de nous faire grâce pour que nous puissions réellement nous préparer à cela, effectivement, en nous débarrassant de toute impureté dans notre vie, en rejetant tout compromis avec le péché, en rejetant tout mensonge qui peut exister dans notre vie. Parce que Seigneur, nous savons que nous t'appartenons, mais combien parfois c'est difficile de faire ce que tu nous demandes. C'est pour cela que nous t'implorons encore de nous faire grâce, tant que Christ n'est pas encore revenu. Et que tu nous permettes, Seigneur, de continuer à contempler avec espérance cette nouvelle terre, là où tu habiteras avec nous. Et nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons de ce que cela sera possible, d'être dans ta présence continuellement, éternellement. Alors oui, effectivement, nous adressons à toi, Seigneur Jésus. Viens, parce que nous t'attendons. Viens, et nous savons que tu écouteras cette prière et que tu viendras bientôt. Amen.